Je fais partie du CISMO, qui est le centre interdisciplinaire sur l'étude dans le monde, l'étude de l'islam dans le monde contemporain, donc à l'Université catholique de Louvain, qui en fait est un réseau à la fois de professeurs et de chercheurs de l'Université catholique de Louvain qui travaillent sur tout type de sujets, et nous avions envie de mettre ensemble nos connaissances, parce qu'on s'est rendu compte simplement qu'on ne connaissait même pas ce que les uns et les autres faisaient dans les différentes facultés, et donc c'est vraiment un réseau de chercheurs qui existe depuis 2004. Concrètement, j'ai fait en fait des études, donc effectivement j'ai un doctorat en sociologie, j'ai fait une thèse sur les frères musulmans européens, un bouquin qui va sortir en fait d'ici 4 mois en anglais chez Bril, sur les racines et les discours de frères musulmans contemporains en Belgique, France et Grande-Bretagne. Et a priori, ça sortirait probablement au PUF aussi, en français, mais là je dois avoir une réunion cet après-midi, donc ce sera aussi dans quelques mois. Alors, cette recherche-ci dont je vais vous parler en particulier ce matin a été effectuée dans le courant des années 2004-2005. Le bouquin, en fait, a été publié en 2007 chez l'Harmattan. Donc, effectivement, nous l'avons fait surtout avec Felice d'Aceto et Jordan de Changi sur la Belgique, mais il faut savoir que c'est une recherche qui a été menée au niveau européen. Donc, on a lancé, en fait, toute une méthode de forum réflexif dont je vais vous parler aujourd'hui. Et cette méthode, qui était vraiment innovatrice, a été aussi entamée dans d'autres pays, notamment en France avec Valérie Amirault, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ça a été aussi entamé en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, et je pense que je n'oublie personne. Et en fait, les résultats, donc il y aura une analyse transversale qui va paraître probablement d'ici un an, mais là, bon, on en reparlera si vous voulez. Mais donc aujourd'hui, je vais simplement vous parler du cas belge. Plus précisément, j'ai peut-être encore précisé quelque chose. Donc, il y a le bouquin chez l'Harmattan dont j'avais donné les coordonnées, donc Relations et co-inclusion islam en Belgique. Mais vous pouvez aussi trouver gratuitement, téléchargé sur Internet, à partir du site de la Fondation Roi Baudouin, en fait, une sorte de résumé. De cette étude, sachant que la partie méthodologique n'apparaît absolument pas donc, dans cette brochure qui est parue à la Fondation Roi Baudouin et qui s'appelle « Les nœuds du dialogue ». Donc la particularité du bouquin, c'est que non seulement vous avez la méthodologie, et puis évidemment c'est beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'extraits des forums, etc. Alors, concrètement, aujourd'hui, je vais vous parler de trois points, mais très très brièvement. Donc, d'une part, le contexte de la recherche. Ensuite, vous expliquer un peu en quoi consiste le fameux forum réflexif. Et puis, quelques résultats de contenu, mais vraiment très très sommaires. Pour vous dire, en fait, on a travaillé, donc on a fait des forums réflexifs sur différents thèmes, notamment les médias, l'école, la confrontation des identités, la question du foulard, la question de la sexualité et du rapport au corps chez les jeunes. Je ne peux absolument pas vous parler de tout ceci aujourd'hui en 30 minutes, donc je ferai vraiment quelques très brèves réflexions par rapport au thème de l'identité donc M. Yezou m'avait demandé. Alors, en ce qui concerne le contexte de la recherche, il faut savoir en fait que cette recherche se situe en quelque sorte dans le prolongement d'un bouquin qui avait été écrit par Felice d'Aceto à l'époque qui s'appelle « La rencontre complexe ». Et c'était donc une réflexion qui était entamée à un moment où se dégageait progressivement l'ampleur des enjeux qui sont associés en fait à l'activation des dynamiques religieuses particulières. Alors on considérait en fait la présence des musulmans en Europe comme constituant un nouveau pluralisme en Europe. Mais un pluralisme qui se juxtapose à d'autres pluralismes plus anciens. Donc notamment ceux qui découlent des multiples formes de christianisme, ceux qui sont issus de la modernité et donc de l'affrontement entre modèle laïque et modèle religieux de société. Un pluralisme également issu de la confrontation entre libéralisme et socialisme, sans oublier la différenciation entre les multiples identités régionales et nationales issues de l'histoire. Donc on considère à la base de cette recherche, la présence des musulmans comme étant un pluralisme supplémentaire à d'autres, mais particulier quand même, car il n'engendre pas seulement des questions nouvelles de communication. Certes, il faut un retour réflexif sur une communication qui ne va pas de soi et qui doit apprendre les codes réciproques, mais la rencontre complexe contemporaine entre une partie de la population européenne qui active ses références aux multiples formes d'islam et la population européenne non musulmane, met en jeu des questions qui sont bien plus importantes, notamment des histoires différentes, des visions du monde différentes, des perceptions différentes du rapport entre religieux et espace public, des sensibilités géopolitiques différentes, etc. Alors, notre constat de base, c'est de dire que ces différences n'ont pas donné lieu jusqu'à présent, tout du moins, à des conflits majeurs, mis à part les difficultés qui sont propres à toute innovation sociale et culturelle. Mais le contexte international aidant, des dynamiques internes et externes à l'islam européen, des crispations politiques teintées de nationalisme, des incertitudes et des maladresses dans la gestion politique de l'islam, contribuent à accroître des tensions et sont susceptibles de susciter un malaise dans le vivre ensemble. Alors, c'est pour ça qu'au-delà de ce constat donc de pluralisme, qui est inhérent et fondateur aux sociétés démocratiques contemporaines, il nous semblait que la rencontre complexe de populations mettait en lumière, mettait en lumière l'urgence d'une démarche de confrontation de fond sur les formes de cohabitation qui coexistent au sein de notre maison commune, que sont les sociétés, les institutions, etc. En effet, cette rencontre ne peut pas être pensée comme une assimilation pure et simple, car d'une part, elle est refusée par les nouveaux Européens, que sont la plupart des musulmans, et d'autre part, le modèle assimilationniste ne correspond plus au modèle avec lequel l'Europe se pense aujourd'hui. Elle n'a plus la même force exclusive et la même clôture autiste qu'est-ce qu'elle a eu par le passé. Cette rencontre entre musulmans et non-musulmans ne peut pas non plus être pensée sous l'angle de la différenciation. Bien que certains musulmans et non-musulmans envisagent la présence de l'islam avec la catégorie de la minorité, il ne semble pas qu'un modèle social et politique de différenciation ethnico-communautaire soit viable comme fondement sociétal. Les pays européens sont trop intégrés par le biais de diverses formes de welfare. Les relations entre les personnes sont trop importantes. Et par ailleurs, les musulmans sont trop désireux de faire part à plein titre des sociétés où ils résident, pour qu'un modèle de société différencié, cloisonné en diverses entités, puisse être réaliste. Et d'ailleurs, on le voit en Grande-Bretagne à l'heure actuelle, où il y a une remise en question donc, de ce modèle multiculturaliste qui avait été prôné jusqu'à présent. Alors, pour tenter d'organiser concrètement ces confrontations de fond, nous avons mis sur pied donc, une méthode originale de recherche-action que nous avons baptisée donc, des forums réflexifs. L'idée fondatrice de cette méthode, qui a été expérimentée pour la première fois dans le cadre de cette recherche, consiste à donner à de petits groupes de gens, aux positions divergentes, l'occasion de débattre sur un sujet polémique qui les concerne et qui les interpelle tous. La parole de chacun est totalement libre et considérée comme digne de respect, sachant que la tenue du débat en lui-même, dans sa dimension globale, est envisagée dans un cadre constructif et construit. Nous y reviendrons plus longuement dans la suite. Alors, d'une part, il s'agit donc d'une méthode qui, tout en postulant l'importance capitale de la confiance entre les groupes sociaux, mais aussi entre les groupes et les autorités, tente de bâtir, de construire un esprit de débat. C'est vraiment très important de cette idée de construire l'esprit de débat. La confiance est en effet une des conditions pour une vie sociale harmonieuse. C'est un élément clé pour résoudre les éventuels conflits, susciter un engagement positif dans la société, établir des relations constructives entre citoyens, saper la logique de ghettoisation ou de repli. Si la confiance est essentielle à la vie en société, elle est pourtant très fragile. Nous estimons qu'elle doit être replacée au cœur des dynamiques sociales, car c'est sans doute le plus grand enjeu des sociétés plurielles aujourd'hui, en amont même de la résolution de leurs problèmes pratiques. D'autre part, pour les chercheurs que nous sommes, cette méthode nous permettait d'avancer utilement dans l'étude des relations et des tensions entre des catégories de personnes. Concrètement, à travers l'analyse des propos des intervenants, et de l'évolution ou non des discussions et des attitudes des participants, les chercheurs peuvent donc mettre en évidence les véritables points de tension, les zones d'accord ou de désaccord, les zones de confiance, de méfiance, de défiance qui peuvent exister. Les chercheurs peuvent aussi constater l'impossibilité pour certaines personnes de traiter de certaines questions dans le fond. Ils peuvent voir des incompréhensions réciproques s'atténuer aussi au fur et à mesure des forums. Ils peuvent déceler la formation de fronts et leurs évolutions. Donc des fronts, est-ce que sur certaines questions il y a des fronts entre musulmans versus non-musulmans, ou est-ce que ce sont des fronts mixtes, est-ce que ça évolue dans le temps ou pas? Bref, l'idée c'est vraiment d'essayer de dégager les enjeux réels au-delà des discours classiques. Dans cette démarche, où les chercheurs restituent leurs réflexions et leurs analyses aux participants durant les séances, ils permettent aux participants d'y réagir et d'être aussi ainsi partiellement les acteurs de la recherche. Donc il y a vraiment une relation qui s'établit entre chacun. Alors, pour fonder notre méthode, nous avons étudié des méthodologies qui sont couramment utilisées dans les sciences sociales. Donc, nous sommes tout d'abord partis de l'idée de focus group, donc qui sont des méthodes d'entretien collectif en vue d'évaluer des services ou des idées nouvelles. Mais où, en soi, donc dans ces focus group, n'existe pas l'idée de confrontation des positions en tant que telles. Nous avons également pris quelques éléments de l'intervention sociologique d'Alain Touraine, dont la méthode vise surtout à analyser des dynamiques de changement social. Nous sommes aussi inspirés de l'esprit qui sous-tend l'éthique de la discussion de Jürgen Habermas. Mais je ne vais pas ici faire une présentation détaillée de tous ces travaux. Je vais seulement me contenter de dire que par rapport à toutes ces méthodes, les forums réflexifs essaient d'être une synthèse spécifique, souple, adaptée à la réalité concrète des malaises sociaux. Une précision toutefois qui me semble d'importance, c'est que nous l'avons essentiellement envisagé dans une perspective d'analyse et non pas dans une perspective thérapeutique, dans le sens où notre but premier n'était pas d'améliorer la situation à tout prix des musulmans et des relations entre musulmans et non-musulmans. Bon, tant mieux si ça pouvait contribuer à améliorer les rapports, mais là n'était pas le but. Le but c'était vraiment voir quels sont les enjeux au cœur des relations entre musulmans et non-musulmans en Belgique. Alors évidemment, certains résultats obtenus peuvent apparaître pertinents pour d'autres qui souhaiteraient envisager donc des forums réflexifs sous cet angle plus particulier. Et donc, la méthode en tant que telle peut apparaître comme un cas tout à fait satisfaisant, malgré ses limites, et ça je vais vous en parler tout à l'heure. Donc le postulat de la méthode, c'est l'idée qu'à travers le dialogue libre et l'argumentation, des gens rationnels se révèlent non seulement eux-mêmes, mais révèlent aussi leur système de pensée. Ainsi, à travers la rencontre d'individus, ce sont des systèmes de pensée qui se confrontent directement. De là émerge la possibilité d'analyser les zones de tension, non pas à un niveau purement théorique, comme si vous preniez n'importe quel bouquin sur qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le christianisme, et puis vous essayez de voir des tensions. Non, ce n'est pas du tout à ce niveau-là. Ce n'est pas non plus strictement au niveau individuel, parce qu'on est toujours porteur quelque part d'éléments partagés. Et donc c'est ça aussi qui se révèle dans les discussions et dans les confrontations, dans les débats. On se trouve donc ici au niveau de la rencontre réelle d'univers de référence distincts. L'analyse n'est donc pas une analyse psychologique, mais elle considère que les attitudes personnelles révèlent des enjeux qui dépassent le cadre de l'individu. Ça va, je ne vais pas trop vite. Ça va. Alors, je vais en fait vous révéler quelques éléments pratiques en fait de la méthode. Alors tout d'abord, un thème litigieux. Donc le thème choisi pour chacun des débats devait être perçu par les personnes concernées comme problématique en soi ou dans la façon dont il était traité en général dans la société. Tout simplement, par exemple, c'est vrai que quand on a traité, par exemple, de l'islam à l'école, autour de la table, nous avions des professeurs, des gens qui étaient vraiment directement liés à l'école, et puis, notamment l'un ou l'autre étudiant, ou des parents d'élèves, etc., mais donc c'était des personnes qui directement avaient un lien. On a fait un débat sur les médias, bon, là, il y avait des journalistes qui étaient présents, et des musulmans, parce que, bon, c'était comme ça s'imposait. On a fait un débat, par exemple, à Anvers sur la confrontation des identités. On a mis autour de la table des gens du Vlaamse Belang, Et on a mis, par exemple, aussi autour de la table des gens de la Ligue arabe européenne, parce que c'est là où se jouent les enjeux. Ça ne servait à rien de prendre. Il fallait chaque fois essayer de trouver des personnes qui pouvaient être, quelque part, révélateurs des tensions qui avaient lieu sur la thématique qu'on voulait appréhender. Alors, ensuite, il faut un groupe de participants représentatifs et équilibrés. Alors, le groupe, en général, c'était composé d'une dizaine de personnes, 10, 12 personnes. En général, toujours moitié homme, moitié femme, moitié musulman et non musulman. Mais alors, attention évidemment, quand on utilise le terme musulman, non musulman, on essayait surtout autour de la table d'avoir des gens de tout type, je veux dire des croyants, des athées, des agnostiques. Alors, une des limites de notre recherche, ça a été peut-être de ne pas avoir pris assez en compte les diversités autres de la société belge. Donc là, c'est vrai qu'on s'est retrouvé beaucoup à se concentrer sur cette polarisation musulman-non-musulman. Donc on n'a peut-être pas pris assez de personnes d'autres origines, quelles qu'elles soient. Bon, voilà, on ne pouvait pas tout faire, ça c'est clair qu'il faut s'en rendre compte. A priori, ce qui est très important aussi donc, par rapport à ce groupe de personnes, c'est que c'était les mêmes personnes qui revenaient pour toute la durée du cycle. Alors, en fait, la durée du cycle, c'était quoi? C'était trois réunions. Donc, trois réunions qui étaient organisées, en général, un mardi, un jeudi, un mardi, qui duraient chaque fois environ 3-4 heures. Et donc, on insistait vraiment pour que ce soit les mêmes personnes qui participent aux trois réunions. Parce que, évidemment, ce qui l'importait pour nous, c'était de voir comment les positions des uns et des autres pouvaient évoluer. Et le fait de pouvoir se rencontrer, bon, la première fois, ces gens ne se connaissent pas, donc... on se regarde un peu comme des chiens de faïence, on n'ose pas trop affirmer qui on est, etc. Et donc la première fois, on faisait simplement un tour de table où très rapidement, les gens se présentaient très brièvement, en 2-3 minutes, pour qu'on puisse situer les uns et les autres. Mais les gens étaient libres de dire ce qu'ils avaient envie de dire ou pas. Donc voilà, par exemple, sur la question de la sexualité, il y avait quelques homosexuels autour de la table, c'était à eux de choisir si oui ou non, ils voulaient se présenter d'emblée comme homosexuels, par exemple. Alors ensuite, ce qu'on faisait, donc il y avait un thème sur lequel on était bien d'accord de discuter tous ensemble donc, pendant trois soirées, et on faisait un premier tour de table pour que chacun d'emblée puisse donner son avis indépendamment de l'avis des autres, et qu'on puisse un peu visualiser quels étaient les types de positions. Et puis après, on commençait vraiment le débat. Et là, c'était vraiment les gens qui étaient amenés à intervenir dès qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que quelqu'un d'autre disait dans le débat. Dans le respect de chacun, ça c'était vraiment la condition de base, chacun la même parole, chacun le même droit au respect, mais vraiment une suscitation de notre part, donc de dire, dès que vous n'êtes pas d'accord avec l'argument que quelqu'un avance, s'il vous plaît, dites-le. Et donc là, notre rôle était vraiment un rôle à la fois, minimaliste, dans le sens où nous intervenions simplement au cas où, par exemple, l'une ou l'autre personne ne s'exprimait pas assez, ou par exemple, si la discussion déviait vraiment complètement du sujet, et devenait complètement inintéressant, bon là, on coupait. Mais globalement, c'était vraiment les gens autour de la table qui prenaient possession de ce débat et qui l'orientaient. Un rôle des chercheurs aussi, c'était d'essayer de voir quels étaient les arguments qui sous-tendaient les positions des uns et des autres, pour voir si réellement ils étaient fondés ou pas, et voir jusqu'où les uns et les autres pouvaient aller. Parce que cela leur permettait aussi de faire un travail réflexif sur eux-mêmes par la suite. D'où l'intérêt aussi de faire trois réunions, c'est que si vous changez d'avis au cours d'une même réunion, c'est un peu difficile à défendre. Si par contre vous avez 2-3 jours qui se passent et que votre opinion a changé en entendant la position des uns et des autres, c'est plus facile de revenir et de recommencer à retravailler sur cette question. Alors évidemment, ce qu'on demandait également, c'était que les personnes parlent en leur nom propre. Donc bien sûr, certains faisaient partie d'associations X, Y, Z et on les avait parfois invités parce que justement, ils étaient susceptibles de défendre telle ou telle position. Mais quand ils parlaient au sein du débat, on leur demandait qu'ils parlent en leur nom propre et pas commencer à essayer de défendre les intérêts de telle ou telle organisation, etc. Parce que sinon, on n'arrive pas à avoir un débat, un réel débat de personne à personne. Ça noie le poisson, on n'arrive à rien. Une autre remarque aussi intéressante, c'est que le groupe en tant que tel ne doit pas être proportionnellement représentatif des différentes tendances qui sont en présence sur le territoire de la recherche. Mais il doit surtout tenter d'incarner une pluralité de positions. Bon, bien sûr, on essayait d'avoir un maximum de positions différenciées, mais vous avez toujours des limites, surtout avec 12 personnes. Donc, voilà, on essayait d'être un maximum dans cette idée de pluralité, pour vraiment s'assurer que des confrontations puissent avoir lieu, mais bon, voilà, en sachant très bien que c'était dans un cadre précis. Donc, en quelque sorte, les résultats auxquels nous avons abouti ici dans la recherche sont un reflet de la société entre les catégories les plus significatives, mais c'est un reflet parmi d'autres. On n'a pas du tout prétention à être complètement exhaustif dans cette recherche-ci, ça c'est bien clair. Alors, juste une petite remarque aussi, quand on utilisait le terme musulman, non-musulman, musulman, c'était en fait les personnes en tant que telles qui se définissaient en tant que musulmans. Alors après, ce n'était pas à nous à établir quoi que ce soit comme critère, c'était vraiment chacun qui se disait, voilà, moi j'estime que j'active mes référents à et je considère que je suis musulman. Pour des personnes qui étaient originaires d'un pays musulman, mais qui voulaient se définir avant tout comme laïcs et non pas comme croyants, alors dans notre bouquin, nous les avons appelés d'origine musulmane. On a fait la distinction pour ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Par contre, les non-musulmans, là, effectivement, dès qu'on pouvait le faire dans le bouquin en précisant s'il s'agissait de croyants, non-croyants ou quoi que ce soit, là, on l'a fait. Mais ils sont tous repris dans la catégorie non-musulmans, qu'ils soient catholiques, athées, juifs ou autres. Là, on les a tous mis ensemble. Alors, le lieu, évidemment, était chaque fois le plus neutre possible. Et donc, comme je l'ai dit, certaines problématiques étaient plus particulières à certaines villes. Donc, par exemple, c'est clair que la question de l'enseignement, par exemple, on l'a fait plutôt à Bruxelles, où en fait la population musulmane, chez les jeunes notamment, touche plus ou moins 25% de la population. Donc c'est clair que des questions, par exemple, dans les écoles, se posent davantage à Bruxelles que dans des villes de province où la population musulmane aurait été bien moindre. La question des confrontations des identités, je vous ai dit, on l'a fait surtout à Anvers, parce que le Vlaamse Belang, parce que la Ligue arabe européenne, parce qu'une communauté juive très importante, qui fait qu'avec les musulmans, ça crée des tensions. Donc la question ne se posait quasiment pas, j'allais dire, de savoir où on allait faire ces débats. Donc, je vous ai dit sur les principes, j'en ai déjà parlé, donc le cycle plusieurs rencontres, en généralement trois, ce qui permettait au groupe, en quelque sorte, de créer sa propre dynamique. Ce qui était intéressant, par exemple, c'est de voir que certaines personnes, par exemple, donc chacun disposait de l'email des autres dès la première réunion, il est arrivé qu'entre les réunions, certains aient eu envie de réagir à ce qui s'était passé avant et envoyer un mail à tous les membres du groupe. Il est arrivé aussi que certaines personnes sont arrivées à la deuxième ou à la troisième réunion en disant, voilà, moi j'ai réfléchi et je voudrais vous faire part de mes commentaires parce que j'ai réfléchi et que voilà. Donc il y avait vraiment, quand on dit que c'était vraiment le groupe qui avait sa propre dynamique, il dépendait vraiment très fortement de chacun, de l'implication de chacun. Donc les rencontres successives permettent donc cet approfondissement de la rencontre et peuvent aussi se révéler des espaces de changement. Pour nous, je l'ai déjà dit, mais c'était vraiment important de ne pas cloisonner, figer les positions des uns et des autres comme ça sur une impression, une opinion. Donc l'importance de voir les ententes possibles, les impasses manifestes, etc. Donc le mot d'ordre, ça j'en ai déjà touché un mot aussi, le respect et la valeur de la parole de chacun. Donc tous les participants étaient égaux, quel que soit leur niveau d'éducation ou leur fonction dans la société. Bon, évidemment, parfois on a fait attention. Bon, on a par exemple fait un débat sur la laïcité, qui était beaucoup plus théorique, où là on avait invité des intellectuels. On n'allait pas mettre des gens on n'allait pas mettre un jeune de 15 ans avec des... Bon, il faut mettre un minimum chacun, à l'aise. Et donc ça dépendait de nouveau aussi chaque fois des thématiques. Si vous voulez parler du foulard, si vous avez 15 ans, vous pouvez très bien en parler. La laïcité, c'est peut-être beaucoup plus compliqué, un objet beaucoup plus théorique, et donc là, non, on ne le faisait pas. Alors, la dynamique. Donc, je vous l'ai dit, les participants sont partiellement acteurs de la recherche sous la conduite des chercheurs. Donc, on n'était pas là pour donner vraiment de direction en tant que telle aux rencontres. Très concrètement, en fait, on était trois. Il y avait une personne qui s'occupait essentiellement donc, d'enregistrer, d'assurer la qualité de l'enregistrement. Merci beaucoup. Et donc, parce qu'en fait, tous les entretiens, enfin tous les forums ont été enregistrés, complètement retranscrits et retravaillés par nous. Et alors, il y avait un des chercheurs qui, en général, donc, s'occupait, je veux dire, de la conduite pratique de la réunion, et donc, simplement couper si quelqu'un vraiment commençait à prendre... À s'étendre et à dévier complètement du sujet, etc. Et le troisième chercheur était en retrait et en fait essayait de voir quelles étaient les logiques d'argumentation. Parce que c'était vraiment ça qu'on essayait de dégager au-delà des positions, je veux dire, concrètes que les uns et les autres puissent prendre. C'était vraiment essayer de voir quelles sont les logiques d'argumentation derrière. Alors, comme ça durait 3 heures en général, on faisait une pause, plus ou moins à la moitié de la première réunion, et les trois chercheurs, on essayait un peu de dégager quelles étaient les logiques d'argumentation et voir comment est-ce qu'on pouvait aller plus loin. Je vais par exemple vous donner un exemple très concret. Un jour, on a fait un débat sur l'islam politique, par exemple. Alors bon, cette question-là n'apparaissait pas comme fondamentale pour les gens autour de la table. Pour les non-musulmans qui étaient là, l'islam politique, oui, oui, peut-être dans les pays musulmans, mais en Belgique, peut-être pas de parti musulman en tant que tel, donc pourquoi est-ce qu'on venait discuter de ça, enfin. Et concrètement, à un moment, comme le débat prenait, parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui faisait partie, justement, bon, il y a un parti islamiste quand même à Bruxelles, le débat prenait, mais... n'était pas assez concret. Alors on les a mis devant une situation prête, bon, de dire, voilà, demain, il y a une municipalité dont, en fait, le bourgmestre, donc l'équivalent de votre maire, est un islamiste, et il a décidé qu'il allait changer tous les bouquins dans la bibliothèque qui ne lui plaisent pas, ben, il va les changer, il n'y aura plus que des bouquins. Bon, on inventait comme ça une situation qui peut paraître peut-être complètement incongrue, mais qui... pourrait être quelque part réel, parce que bon, quand on voit la population à Bruxelles, etc., bon là le débat était à Liège, c'était un peu différent, mais c'était essayer de les mettre un maximum dans une situation et dire alors, mais comment est-ce que vous réagiriez? Qu'est-ce que vous feriez concrètement dans cette situation-là? Donc, pour voir un peu quelles étaient alors les positions des uns et des autres. quand on faisait notre analyse des logiques argumentatives qui étaient défendues par les uns et les autres, on les soumettait donc aux participants et on leur disait, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'on interprète bien ce qui est en train de se dérouler là maintenant sous vos yeux? Et puis alors, ils réagissaient. Et alors, de nouveau, c'était... tout le processus s'est passé comme ça. Donc ça se passait chaque fois au cours d'une réunion. Et puis après chaque réunion, les trois chercheurs se réunissaient, essayaient de faire, un premier... pendant une heure, on se laissait pour vraiment baliser les premières réflexions qu'on pouvait avoir, où on avait l'impression de là où se jouaient les enjeux. Et puis, il y avait une retranscription, donc c'était pour ça qu'on avait un mardi, pour nous laisser 2 jours pour pouvoir avoir le temps de retranscrire, analyser et revenir à la charge, donc à la réunion d'après. Et alors, donc, on recommençait la deuxième réunion en disant, voilà, nos constats sont ceci, 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 est-ce que vous êtes d'accord? Et on était reparti pour un tour, quoi. Donc c'était vraiment à chaque fois remettre le débat en jeu. Alors, les intérêts de la méthode, c'est en fait voir en un laps de temps très court où se nouent les enjeux sociétaux, comment ils sont vécus concrètement, et comment ils peuvent évoluer au cours des rencontres. Alors, les forums réflexifs sont aussi un cadre et des conditions propices à la discussion. Chaque groupe forme une sorte de microcosme démocratique où chacun a sa place. C'est aussi, en fait, important parce qu'il y a des gains en termes de connaissances et de communication. En fait, les gens qui participaient au forum réflexif pouvaient discuter avec des personnes qu'ils n'auraient jamais rencontrées en d'autres circonstances. Le groupe est donc un lieu d'une communication par ailleurs impossible ou extrêmement improbable. Et puis chacun peut découvrir les limites de sa propre connaissance. Bon, par exemple, simplement, l'islam a été reconnu en 1974 en Belgique. Il y avait des non-musulmans qui étaient autour de la table qui ne le savaient absolument pas et qui ne connaissaient absolument pas les implications que ça pouvait avoir en termes de financement du culte en Belgique. Et donc forcément, quand les non-musulmans parlaient de la non-reconnaissance, de ce que eux percevaient comme une non-reconnaissance parce que cette loi de 74 ne porte pas ses effets, les non-musulmans au départ ne comprenaient même pas de quoi il s'agissait parfois. Donc c'était simplement se rendre compte de ses propres lacunes en matière de connaissance pour les uns et pour les autres. Et puis aussi, en étant poussé dans ces derniers tranchements, vu qu'on essayait chaque fois de voir quelles étaient les logiques, quels étaient les arguments derrière les positions des uns et des autres, les individus parfois se révélaient à eux-mêmes et se rendaient compte du fait que, ou non, oui ou non, leur position était réellement fondée. Et ce n'était que dans la discussion que ça parfois émergeait. Donc on peut dire qu'il y avait un rôle vraiment révélateur du groupe en tant que tel, mieux que toute théorie ou que toute interview. La méthode permet de faire émerger des positions dans leur complexité. Donc aussi, le fait de pouvoir être confronté à l'autre oblige à argumenter et donc d'aller plus loin. Donc, on peut dire en fait que le forum réflexif offre une possibilité de désamorcer des situations qui sont potentiellement porteuses de conflictualité. Ils sont un moyen parmi d'autres existants ou envisageables, mais évidemment en aucun cas un remède miracle. Et d'ailleurs, je vais alors, donc maintenant vous évoquer en quelque sorte les limites et les difficultés de cette recherche. Alors tout d'abord, il y a un certain nombre de difficultés pour la mise en œuvre de cette recherche. Donc ça demande beaucoup d'investissement en temps, en énergie pour organiser les forums. Il faut trouver un lieu, il faut contacter des gens, s'assurer que ces gens soient là, et d'avoir donc le pluralisme que j'ai évoqué, donc s'assurer que le groupe soit équilibré. Ça demande une énergie folle. Jordan de Changy était à temps plein pour trouver ces personnes représentatives et donc ça c'est clair que c'est un investissement assez lourd. Alors il y a aussi des difficultés inhérentes au type de personnes et aux relations entre les types de personnes que nous avons rassemblées. Je vais ici en énumérer quelques-unes parmi bien d'autres qui sont énumérées ici de là dans l'ouvrage. Alors tout d'abord il faut savoir que évidemment dans la relation musulman-non-musulman, on a affaire à une relation inégale. Bien que nous avons travaillé sur les relations entre musulmans et non-musulmans, où il y avait l'idée que chacun devait se remettre en question, et pas seulement les musulmans, l'islam, etc., le fait que l'islam soit l'objet d'attention première, évidemment, de ces forums, et que quelque part la présence des musulmans est relativement nouvelle en Belgique, même si bon, ça date maintenant depuis 40-50 ans, et qu'il constitue une minorité dans la population belge, faisait qu'il y avait une forme d'inégalité dans les rapports. Pour la majorité, en effet, les relations à la minorité sont accessoires. L'inverse n'est pas nécessairement vrai. Ensuite, une difficulté à parler en son nom propre, surtout. Mais alors, quand ils y parviennent, vraiment, ça aboutit à de bons résultats. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, par exemple, c'était plus facile de faire ça avec les jeunes. Les jeunes parlaient plus facilement en leur nom propre que des adultes. Alors, une difficulté, par exemple, qu'on a eue en Belgique, c'est à trouver des intellectuels musulmans dans les débats. Quand je dis intellectuels musulmans, je veux dire des intellectuels qui puissent parler d'un point de vue théologique sur la religion. Et ça, c'était vraiment... Bon, on a le problème en Belgique, je crois que vous auriez moins de problèmes en France, mais en Belgique, c'est un réel problème, et notamment dans le débat sur la laïcité. Donc, il y a des, si vous voulez, il y a des intellectuels musulmans, mais par exemple, ils ne parlent pas le français ou le néerlandais. Et donc, dans un débat avec d'autres intellectuels, ça ne va pas fonctionner. Et donc là, on avait vraiment une limite à ce niveau-là. Alors, un déséquilibre aussi de situation. Il faut savoir aussi que les gens, parfois, par exemple, vous avez certaines personnes qui vont utiliser des arguments théologiques, mais un non-musulman qui ne connaît pas la théologie musulmane n'aura aucun argument à rétorquer par rapport à cette personne qui viendra avec des arguments théologiques. Donc là, vous devez avoir malgré tout aussi un chercheur qui soit capable de se positionner sur les deux tableaux et qui puisse de temps en temps recentrer le débat et expliquer où se situent les enjeux. Parce que vous avez un déséquilibre dans le dialogue. Il ne peut pas y avoir un dialogue à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous parle de quelque chose sur lequel l'autre n'a aucune prise. Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à la théologie. Voilà, si vous avez un athée devant vous qui n'y connaît rien à la théologie musulmane, bah, voilà, il sera bloqué et il n'y aura pas de débat. Alors, d'autres difficultés encore donc de cette méthode, je veux dire, c'est l'importance des préjugés, et notamment la difficulté de sortir d'une posture de justification-défense, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Une grosse difficulté aussi en Belgique aujourd'hui, c'est l'incompréhension du fait religieux. Bon, c'est clair que la société est largement sécularisée et que certaines personnes ont vraiment du mal à se mettre dans le point de vue du croyant, d'un croyant. Autre difficulté fondamentale, c'est le manque, je veux dire, de conceptions claires sur des thèmes fondamentaux, comme la démocratie, la neutralité. Bon, en Belgique, on ne parle pas de laïcité, on parle de neutralité dans le sens où, en fait, l'État donc, intervient dans la subvention des cultes. Il y a une séparation, mais une subvention des différents cultes. Et à partir du moment où, en fait, pour les uns et les autres, le concept n'est pas clair, vous pouvez difficilement discuter. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Un jour, on s'est retrouvé dans une discussion à parler de la démocratie, c'était un débat sur l'islam politique, et la démocratie, pour les gens qui étaient autour de la table, c'était la règle de la majorité. Point. Alors, à partir du moment où vous dites que la démocratie, c'est la règle de la majorité, et que vous n'avez personne autour de la table qui est capable de vous dire que ce sont bien d'autres choses encore, peut-être, qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, etc., mais qui s'assemblent et qui font ensemble ce que peut être une démocratie, alors on va vous dire, bon ben, si la majorité de la population musulmane est un État islamique, pourquoi pas, ça pourrait être la règle de la démocratie, ce serait ça. Et là, vous n'avez pas de débat. On aboutit à ce jour-là à un débat, voilà, où il n'y a pas de répondant. Et donc là, vraiment, je ne sais pas, en France, bon, en Belgique, on n'a pas, en tant que tel, de formation à la citoyenneté, ou de voilà. On n'a pas ça dans les écoles, je ne sais pas si vous l'avez en France. Si vous l'avez en France, peut-être que vous n'auriez pas eu le même type de problème que nous avons eu en Belgique. Mais en Belgique, en tout cas, là, on a vraiment tiré la sonnette d'alarme auprès des politiques en leur disant il faut absolument qu'il y ait des formations sur quels sont les fondements de notre société aujourd'hui, parce que ce n'est pas du tout clair. Et je vous parle des jeunes, mais je vous parle des adultes aussi. Une autre difficulté, c'est, en point d'interrogation, la demande excessive de réponses claires. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que beaucoup de non-musulmans exigeaient des réponses claires sur toutes les thématiques aux musulmans qui étaient présents. Mais vous ne pouvez pas nécessairement avoir une opinion sur tout. Et donc c'est clair qu'il y a un moment où il y avait un déséquilibre, où les musulmans disaient, mais écoutez, on en a marre, laissez-nous, je ne sais pas moi, je ne sais pas, ils ne savaient pas, mais ils ne peuvent pas. Et là, c'est vrai qu'il y avait une demande que nous estimions excessive de la part des non-musulmans, donc où chaque fois les musulmans devaient se justifier sur tout et sur rien. Alors, voilà. Alors, je vais très brièvement, parce que je trouve que c'est vraiment important qu'on puisse avoir un débat, vous donner quelques très brefs résultats empiriques de cette recherche. Donc tout en rappelant de nouveau qu'on ne prétend pas dire toute la vérité sur cette réalité très complexe des relations, mais bon, malgré tout, il me semble qu'on peut faire quelques constats. Et je vais notamment vous parler en fait des jeunes. Donc je vous ai dit, on a fait trois débats sur des jeunes, avec des jeunes, sur le rapport au corps et le rapport à la sexualité. Est-ce que oui ou non leur croyance avait un rapport, avait une influence sur la manière dont ils percevaient leur corps et leur sexualité. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut d'abord constater, c'est que les jeunes, d'une manière générale, se montraient d'une sensibilité particulière à toutes les questions qui touchaient les relations entre musulmans et non-musulmans. Peut-être davantage que, les adultes qui ont fait partie de tous les autres groupes. Il y avait vraiment une atmosphère particulière dans ce groupe, beaucoup d'émotions, d'amitié, de franc-parler, etc., beaucoup plus sensible que les autres groupes. Est-ce que ça avait un lien aussi avec le fait qu'on touchait à une question assez sensible, très personnelle, la sexualité? Bon, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y avait vraiment quelque chose qui est ressorti de là. Alors, ce qu'on peut dire de manière très globale, c'est que pour les musulmans, mais donc je dis bien musulmans qui se revendiquaient en tant, enfin, qui revendiquaient leur croyance en tant que telle, donc la religion influence leurs différents aspects de la vie, y compris donc la sexualité. Tous affirmaient tenter de vivre en conformité avec les prescrits religieux et cheminer vers cet idéal. Donc il y avait en quelque sorte chez les musulmans un constat de l'obéissance à des règles, même si tous avaient vécu une étape d'appropriation personnelle donc, de leur foi. Mais donc ce qui frappait surtout chez ces jeunes musulmans, c'était leur souci de se conformer aux prescrits. Chacun à sa façon, les respectait déjà, mais la voie ne paraissait pas toute tracée de savoir comment on allait faire pour respecter ces prescrits idéaux. Et donc chacun tend vers cet idéal avec ses interrogations et ses vécus particuliers. Donc il y avait une conformité déjà là ou encore à atteindre par rapport à ces prescrits, même s'ils se demandent parfois que faire et comment le faire. Ce qu'on remarquait chez les non-musulmans, c'était que le vécu de la sexualité se fait sans rapport aux religieux, en faisant référence quasiment exclusivement à des valeurs personnelles. Donc c'est avant tout une question de respect de soi et de ses aspirations personnelles. Autre constat, c'est que d'une manière générale, les jeunes musulmans ne semblaient pas vouloir se diriger ou souhaiter se diriger vers une société homogène, où il y aurait fusion des différentes conceptions. Ils revendiquaient le droit d'être eux-mêmes, comme ils l'entendent, et ils entendent bien pouvoir être musulmans à part entière, tout en étant résolument inscrits dans la société où ils vivent. Toutefois, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une double tendance contradictoire chez les jeunes. D'une part, certains semblent s'intégrer et être prêts à intégrer d'autres façons de voir, sans se renier, etc. Ils sont donc des exemples de co-inclusion. Alors, co-inclusion, ça, je dois peut-être revenir dessus parce que ça fait partie du titre et je ne l'ai pas expliqué. C'est, en fait, sur le plan de la citoyenneté, la capacité de prendre en compte le point de vue de l'autre pour se forger sa propre opinion. Ça ne veut pas dire nécessairement accepter le point de vue de l'autre, mais être capable de le prendre en compte dans la formulation de sa propre opinion. Ça va ? Donc, quand je parlais de double tendance contradictoire chez les jeunes, c'est qu'on voyait que donc, certains étaient des exemples de co-inclusion, mais que d'autres, notamment suite à des expériences douloureuses, parce qu'ils se sentent rejetés, parce qu'ils vivent dans des quartiers difficiles, etc., se montrent beaucoup plus fermés. Ils sont ouverts au dialogue, mais pas à un échange vrai. Et certains sont même parfois écrasants et imperméables. Et alors là, je dois vous avouer que pour moi, ça a été quand même un certain choc, dans le sens où, bon, je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur les mouvements, enfin la mouvance des frères musulmans. Et ce que j'ai par exemple remarqué, c'est que pas mal de jeunes qui faisaient partie d'associations donc qui prônent la citoyenneté, l'ouverture, etc., et qui sont effectivement dans des associations qui réalisent un dialogue concret avec les différents pans de la société, parfois se montraient imperméables. Donc il y avait une espèce de double facette comme ça, donc il y avait des discours, et puis dans la réalité, il y avait malgré tout vraiment une impossibilité de débat, parce qu'on est tellement convaincu de ses principes et de ce qu'on croit, que du coup ça rend un véritable échange possible, une véritable co-inclusion. On est plutôt dans une attitude de confrontation, même si l'attitude paraît être celle de l'ouverture. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc bref, par rapport aux jeunes, il y a un bilan mitigé, car il y a un socle commun qui semble parfois se dessiner, mais il y a aussi parfois des affirmations identitaires très exclusives. Donc il y avait vraiment c'était vraiment mitigé à ce niveau-là. Je vais bientôt terminer comme ça. Alors, d'une manière générale, on pourrait dire que, alors là, je reprends pas seulement les jeunes, mais je reprends tout ce qu'on a fait par rapport. Donc, pour vous dire, je vous ai dit qu'on avait fait 7 débats, qui étaient chaque fois, donc 3 fois. En tout, donc, on a eu environ 70 personnes qui ont participé donc, à ces débats, 70 personnes différentes. Alors, il n'y a pas, en fait, on n'a pas perçu de conflit identitaire soluble de manière générale. Mais par contre, tous les interlocuteurs, et là je parle aussi bien des musulmans que des non-musulmans, apparaissent plus ou moins insatisfaits de la relation et semblent souffrir d'un manque de reconnaissance même si cela est moins fort chez les non-musulmans. Alors, d'une part, les uns, donc les musulmans, ont le sentiment de ne pas vraiment être libres de vivre leur religion et estiment que l'islam est criminalisé. Alors là, en fait, on a ressenti très fort les impacts du 11 septembre, que certains ont vraiment évoqué comme une catastrophe, parce que désormais, il y avait de l'insécurité, d'islamophobie, etc. La date du 11 septembre n'a pas du tout été évoquée par les non-musulmans. Pour eux, le 11 septembre n'a rien changé dans les relations. Donc là, il y avait vraiment une disparité. Pour les non-musulmans, d'une manière générale, ils craignent une domination religieuse et une contestation des principes constitutionnels belges, tels que ceux de la liberté religieuse, de la neutralité de l'État ou de l'égalité homme-femme. Alors, d'autre part, les craintes et les attentes réciproques ne trouvent pas toujours d'écho. La confiance n'est pas accordée sur demande, car il reste trop d'interrogations sans réponse, trop de doutes empêchent une reconnaissance immédiate de la religion musulmane, mais aussi des musulmans.